Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Charles Magnin.
On est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi avec aujourd'hui autour de la table Martin Bourdin, l'entrepreneuse influenceuse Élise Goldfarb, le propriétaire de Gide, Jérôme Lavrieux, la journaliste à l'incorrect Juliette Briens et vous à tout moment évidemment au 32-16 pour réagir à tous nos sujets. À 13h30, on va parler de ces maires qui suppriment des pistes cyclables un peu partout en France, à Lyon, à Avignon, à Aurillac. Ils veulent redonner toute sa place à la voiture, disent-ils. Alors pour ou contre la suppression des pistes cyclables en centre-ville, vous venez nous le dire. Au 32-16 à 14h, on parlera de ce que beaucoup considèrent comme un fléau sur nos téléphones, les messages vocaux, les notes vocales. On en reçoit de plus en plus, ils sont de plus en plus longs. Est-ce que vous en êtes adepte, comme Élise Goldfarb, qu'on voit régulièrement envoyer des vocaux qui sont de véritables podcasts? Ou est-ce qu'à l'inverse, comme Jérôme Lavrieux, vous ne les écoutez même pas? Vous venez nous le dire, faut-il en finir avec les messages vocaux? Vous venez nous le dire au 32-16 à 14h. Et puis juste avant, à 13h45, on aura le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour Charles, je vous ai fait une note vocale là pour.
Je l'écouterai quand j'aurai le temps.
Bon, alors vous remplacez Estelle aujourd'hui, oui. Comme par hasard. Estelle qui a posté une photo hier, qui est tombée en pleine randonnée. Elle a chuté, vous avez vu sur Instagram, elle s'est éraflée toute l'arrière de la fesse. Je vous le dis, Charles, beaucoup vous soupçonnent de ne pas être étranger à tout ça. Vous étiez où hier matin vers 11h? Vous n'étiez pas du côté de Morzine, non?
Non, pas de croche-patte, c'est promis.
Pas de croche-patte?
Non. J'étais à Paris et Estelle va très bien, ouais. D'ailleurs. Elle est en train de nous écouter, elle sera de retour demain.
Très bien, on écoute un message en attendant la suite des messages à 13h50.
Coucou mon petit Charlot, c'est maman. Bon, je rentre de Morzine là. C'est bon, j'ai fait tout comme tu m'as dit, hein. Le petit croche-pied au sommet de la montagne. Mais manque de bol, elle est coriace la mère Denis. Elle s'est accrochée à un sapin et elle s'en est sortie. Mais bon, on lâche rien, hein. Tu vas la voir ton émission, mon chat. Bisous, bisous.
Quelle indignité, Charles. Non, franchement.
Non. Laissez ma mère tranquille, déjà.
Laissez Estelle tranquille.
C'est vrai.
Allez, on se retrouve à 13h50.
À tout à l'heure pour le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. Et tout de suite, c'est le zapping.
RMC Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre ce zapping avec un extrait du Morning RMC et cette info qu'on vous a révélée ce matin sur RMC. 500 permis de conduire retirés pour usage du téléphone au volant. Faut-il faire la même chose partout en France? Aujourd'hui, c'est le département des Deux-Sèvres, hein, qui devient le 8e département en France à mettre en place cette mesure. Suspension du permis, retrait du permis pour usage du téléphone au volant. C'est pas du tout du goût des automobilistes verbalisés. Tiens, écoutez Clara au micro de notre reporter Pierre Bourgès.
En milieu de chemin, mon support téléphone a cassé et à ce moment-là, j'avais besoin de mon GPS. Donc je tiens mon téléphone dans la main et en fait, j'entends la sirène qui me prévient que je me suis fait voir en tenant mon téléphone, quoi, tout simplement. J'en ris aujourd'hui, mais c'était un drame pour moi parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps et je suis à un endroit où il n'y a pas de moyen de transport et donc là, je me suis dit c'est une catastrophe. Même 15 jours, c'est une catastrophe. J'ai utilisé mon vélo, j'ai utilisé mes petits pieds, je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Ah oui, mais on l'entend bien là, cette Clara. Certes, elle est dans l'illégalité et en même temps, est-ce qu'il faut aller jusqu'à suspendre le permis pour quelqu'un qui a tenu son téléphone quelques minutes au volant? Juliette Briens.
Non mais j'entends les excuses à rallonge pour aller justifier quand même un comportement qui est vraiment plus que courant. Je vous dis, je prends pas beaucoup la voiture, très rarement. Ce week-end, je suis allée en Normandie, j'ai fait l'aller-retour, c'est pas moi qui conduisais, et sur le retour, il y avait un peu des bouchons un peu lents, et je me suis amusée à regarder les autres dans les voitures. C'est pas 1 sur 10, c'est pas 2 sur 10, c'est pas 3 sur 10, c'est pas 4 sur 10. C'était 6 à 7 personnes sur 10 dans les bouchons, les yeux rivés sur leur téléphone. C'était vraiment choquant. On n'est pas sur un comportement marginal. Le téléphone au volant, j'ai l'impression que c'est une habitude lorsqu'on se sent en sécurité de la vue de la police ou des radars, qui est totalement banalisée. voilà, je veux le dire. Donc, je suis contente qu'il n'y ait pas eu d'accident ce jour-là. Mais il n'y avait pas, il y avait, c'était très rare de voir un conducteur. Alors, on allait lentement, certes, on était dans des bouchons, certes, mais ils étaient tous les yeux rivés sur leur téléphone. Et je me suis dit, ah ouais, ouais, il y a peut-être quand même une sonnette d'alarme à tirer.
Et c'est dangereux. Alors, certes, moins dans les bouchons, etc. On entend les automobilistes qui se trouvent toujours des excuses, mais ça reste dangereux. Est-ce qu'il faut plus de sévérité? Là, il y a 8 départements. Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut le faire partout en France? Téléphone à la main, suspension, retrait de permis.
Je suis fils de garagiste. Des accidents avec des voitures irréparables, donc les garagistes sont pas contents. Suite à des téléphones au volant, j'en ai vu des dizaines dans ma vie. Celui qui dit qu'il s'est fait avoir alors qu'il faisait rien, il n'y a jamais de bol en fait. Et mon téléphone a tombé, je l'ai ramassé. Bah, quand quelque chose tombe, tu ne te penches pas pour le ramasser déjà. Donc ça peut pas marcher comme ça. C'est ceux qui n'ont pas eu d'accident qui peuvent en parler. Ceux qui ont un accident avec le téléphone au portable, on ne les aura pas en interview, hein, parce qu'ils ne peuvent plus faire d'interview. Voilà. C'est un fléau. Moi, j'ai juste un tout petit problème. C'est que ça devrait être la même règle, quelle que soit la règle, ça devrait être la même règle pour tout le monde, oui, dans tous les départements. Parce que nul n'est censé ignorer la loi.
Là, c'est chaque préfet.
Alors
chaque
que là, si la loi change d'un kilomètre sur l'autre, parce que tu as franchi une frontière du département que tu ne le sais même pas, tu peux ignorer la loi. Bon, il y a un problème constitutionnel, nul n'est censé ignorer la loi, et la loi doit être la même pour tous et partout. Donc, en fait, c'est juste parce que on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'il n'y a personne qui prendra cette décision. Mais je pense qu'il faudrait l'élargir.
Est-ce qu'elle serait populaire aussi, cette décision? Est-ce qu'il y a des politiques qui ont envie de porter ça?
Parce que c'est ça le sujet, il faut supprimer les limitations de vitesse, il faut que tu puisses conduire avec les pieds sur le tableau de bord, parce que tu as une boîte automatique, et en bouquinant et en faisant une visio.
Non, mais ça pourrait
être. Enfants, garde tes enfants chez toi. Hein.
Non, mais il faut toujours il faut que la sanction soit graduelle. Ça pourrait être première fois, hop, c'est 6 points, par exemple.
On se plaint tout le temps que la justice n'est pas assez dure. Qu'il n'y a pas assez de sanctions et que donc, vu que tout est impuni en France, et rien ne se passe. Mais moi, je trouve ça génial.
Combien de morts? Alors, on leur enlève leur permis. 3500 morts par an.
Évidemment.
Et non, mais dans quelle profession?
Je ne défends pas.
Imagine s'il y avait 3500 morts par an suite à des accidents d'avion en France. Mais il y a longtemps qu'on aurait fermé les aéroports,
évidemment,
les mecs.
Évidemment, Jérôme, mais ce que je dis, c'est que sinon, dans ce cas-là, on suspend le permis, on retrait de permis pour tout. C'est passage au feu orange, hop, retrait de permis. Tout est dangereux au volant. Une roue sur la ligne blanche, c'est dangereux.
Mais être au téléphone, ça te double, voire triple, les risques d'accident quand tu es en train de regarder ton téléphone. Ouais. Même 5 secondes, je crois que non, même 3 secondes d'inattention, ça met en danger tout le monde sur la route.
Donc vive le durcissement des sanctions. Ah ouais. J'ai bien compris, autour de ce plateau, on passe à un extrait des GG. Est-ce qu'il est difficile de vivre en France aujourd'hui lorsqu'on est musulman, juif ou pas blanc de peau? Ce sont les mots de Xavier Bertrand ce week-end, le président de la région des Hauts-de-France, qui ont fait bondir Joël Dagosséry, la coach de vie des GG.
Moi, je me sens vraiment comme une sorte de proie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que aux abords de l'élection présidentielle, il y a des sortes de griffes qui viennent se resserrer autour de ton cou, parce que on te dit, ah, on te rappelle, dis donc, t'es noir, ah, dis donc, t'es arabe, je parle pour toi. Alors, entre Mélenchon et maintenant Monsieur Bertrand, enfin, on n'en sort plus, donc non, j'appartiens à personne, on appartient à personne. Nous, on essaie de vivre tranquillement en France, et ce serait bien que les politiques le comprennent.
Élise Goffard, parce que Xavier Bertrand a raison de plaider, de défendre cette position, d'estimer qu'il est difficile de vivre en France lorsqu'on est musulman, juif ou pas blanc de peau, pour reprendre ses mots.
Je pense quand même, étant juive, on a beaucoup de chance d'être en France et pas dans des pays où on se ferait tuer, en fait. Il y a énormément de gens qui viennent en France pour vivre dans des meilleures conditions. Maintenant, c'est sûr que le racisme a explosé. Je pense que c'est un phénomène mondial. Moi, avec mes copains, on se demande où est-ce qu'on va aller vivre en ce moment, si vous voulez. Parce que bon, dans la culture juive, il y a un proverbe qui dit qu'on n'habite jamais, on grandit jamais au même endroit que ses grands-parents. On vit avec des valises. Mais si vous voulez, il y a une instrumentalisation politique. Moi, je me sens comme un objet. Je suis une femme objet aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, il y a LFI qui essaye d'aller chercher les musulmans et les gens des quartiers. De l'autre, t'as le RN qui va chercher les juifs. Et nous, on est des petits pions. Et on va d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, et on nous met dos à dos. Pour moi, ça devrait pas être difficile de vivre comme un juif ou comme un musulman ou comme un noir en France. Le racisme existe dans le monde entier, et c'est comme ça malheureusement. Mais on va dire que la France est un des pays, je trouve, qui échappe le plus. Il y a pas de loi raciste en France. On est protégé. Moi, en tant que femme juive lesbienne,
Je suis tellement en sécurité dans ce pays. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mourir parce qu'on est juif en France. Donc il y a quand même une explosion du racisme. Les gens se détestent, mais pour moi c'est de la faute de nos politiques. C'est eux qui nous mettent dos à dos tous les jours. On nous met dos à dos.
Oui, mais est-ce qu'ils nous
mettent... Si nous on s'écoutait entre juifs et musulmans, on en aurait rien à foutre. On irait manger des couscous ensemble et tout irait bien. C'est les politiques qui jouent avec nous et malheureusement ce sont des blancs.
Oui, mais alors Juliette Briand, c'est ce que Xavier Bertrand fait monter les tensions, nous met dos à dos quand il souligne le fait que en France c'est plus difficile quand on n'est pas blanc ou quand on appartient à une minorité religieuse ou ethnique en fait.
Mais quel ringard ce mec. Franchement, mais le mec il a 30 ans de retard dans ses discours, c'est catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez, ça veut dire quoi alors que donc c'est difficile pour les non-blancs, donc en fait c'est la faute des blancs. C'est ça en fait un peu qu'on dit, hein. C'est ça hein. Enfin moi je l'ai compris comme ça personnellement. Mais en fait les blancs sont racistes et persécutent les juifs, les musulmans dans ce pays et tous les non-blancs. Bon bah moi je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'effectivement on vit dans un pays qui est très peu raciste et que quand on se compare aux autres, effectivement en France tout va quand même plutôt bien. Mais effectivement ce qui se passe, et ce qui se passe depuis des années, et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont prévenu que ça allait arriver, mais personne ne les a écoutés, c'est qu'il y a de la communautarisation. Et le « on est dos à dos », c'est ça en fait. C'est que chacun se retrouve de plus en plus dans sa propre communauté.
Mais est-ce que les politiques le provoquent ou est-ce qu'ils ne font que répondre?
Il y a plusieurs choses qui l'ont provoqué. Il y a plusieurs choses qui l'ont provoqué. Il y a l'immigration incontrôlée. Il y a le fait qu'on n'a plus du tout adhéré à ce discours républicain de l'assimilation, de tous ensemble, et qu'on a privilégié un discours de venez avec vos différences, vous êtes différents et c'est bien, mettez en avant vos origines à tous les moments, etc. Moi, je pense que ça a été une catastrophe. Et puis, voilà. Aujourd'hui, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais regardez toutes les émissions de télécrochet et de télé-réalité, il y a plus une émission, que ce soit Star Academy, etc., où s'il y a des gens de différentes couleurs de peau ou de différentes ethnies ou de différentes religions, le truc se finit pas en bataille raciale sur les réseaux sociaux. C'est horrible. C'est horrible. On en est là. Il y a plus une seule émission qui y échappe, que ce soit l'Eurovision ou Star Academy.
Mais
etc.
Jérôme, est-ce que c'est le drame des politiques, comme le disait Juliette?
Mais ce pauvre Bertrand.
Est-ce que c'est un peu ringard de classer les Français, de s'adresser à eux en fait quelque part? Moi, j'ai pas envie qu'un politique s'adresse à moi selon ma religion, ma couleur de peau, etc. Est-ce que les politiques raisonnent avec des deux logiciels en disant on va parler comme ça aux musulmans, on va dire ça pour s'adresser aux juifs, on va parler comme ça pour les blancs, comme ça pour ceux qui ne sont pas blancs? Est-ce qu'il y a ce côté marketing de la politique qui est en train de tout gangréner aujourd'hui?
Non, mais ça, c'est ce que fait Mélenchon.
Mais exactement.
La segmentation, il ne parle pas à des citoyens. Il parle à des segments de la population.
Mais là, en l'occurrence, c'est Xavier Bertrand qui segmente.
Dans l'espoir d'en retirer un bénéfice politique. Ce que dit Xavier Bertrand, dont le combat vient de loin sur ce type de sujet, c'est qu'il est contre la communautarisation, la segmentation qui est faite par Mélenchon, mais que pour autant, on ne peut pas se voiler la face. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a entendu les parents, c'était pas les parents de la petite Liana, c'est l'autre jeune fille dont on n'avait pas pris en compte les plaintes. Voilà. Et il y a un truc qui est vrai, et c'est que la plainte de cette maman qui a du mal à s'exprimer en français a sans doute joué dans la prise en compte, la non prise en compte de sa plainte.
L'inspection, le rapport le dira, mais beaucoup disent que le fait qu'elle ait un accent.
Et si vous regardez les statistiques, quand vous arrivez dans les urgences en France, si vous êtes de couleur noire, eh bien, on va présupposer que vous êtes plus douillé, que vous êtes moins tolérant à la douleur, et du coup, on va pas prendre en compte votre douleur. Et ça, c'est vrai, c'est statistique, c'est pas mieux qu'en France. Donc ça existe, et ça aussi, il faut le dire. On peut pas juste lutter contre toute forme de communautarisation et pas dire, mais il y a aussi des choses qu'il faut améliorer dans l'autre sens. C'est ce que dit Xavier Bertrand, et pour moi, je pense qu'il a raison.
Pas ça.
Un extrait d'Apolline Matin, maintenant. Faites-vous confiance au gouvernement pour faire payer les casseurs? Sébastien Lecornu annonce un projet de loi dès le mois de juillet visant à faire payer les casseurs suite aux dégradations après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Une loi casseur-payeur serait-elle efficace? Les explications de Romain Houg.
Concrètement, une personne présente dans un attroupement pourrait être tenue pour responsable des dégâts causés sans savoir si c'est bien cette personne qui a cassé une vitrine ou un abribus, par exemple. Le gouvernement en est conscient, un tel dispositif est très fragile devant la Constitution, alors les équipes de Matignon assurent fignoler le texte pour le rendre le plus robuste possible juridiquement. Et puis, Sébastien Lecornu souhaite mettre en place le principe du casseur-payeur. Cela pourrait passer par une ponction partielle chaque mois des aides sociales, soit du majeur mis en cause, soit des parents s'il s'agit d'un mineur. On ne sait pas encore quelle aide sociale pourrait être visée par l'exécutif. Dans tous les cas, une telle ponction se ferait à condition de laisser un reste à vivre suffisant aux personnes concernées.
Ça va faire l'unanimité, mais est-ce que ce sera efficace? Est-ce que... Ah bah, Juliette Briand sera le déjà, avant même qu'on ait le texte.
Non, c'est pas que je râle. Je demande à voir. J'ai vraiment pas confiance. La question, c'est est-ce qu'on a confiance? Non, j'ai pas confiance. Je pense que ça va être très difficilement mis en place parce que déjà c'est difficile d'avoir assez de comparutions immédiates et des vraies peines lorsqu'il y a ces saccages-là parce que il faut qu'ils soient pris en flagrant délit, les casseurs. Il y a des masses entières de jeunes qui convergent vers la police, qui sont dispersés de tous les côtés. Ils arrivent en arrêter une poignée et après il faut qu'ils puissent dire au juge. Ce gamin-là, il a été pris en flagrant délit en train de briser une vitrine.
Et, oui.
Et si c'est pas le cas, en fait, c'est comme une grande, c'est comme une grande passoire en fait, oui. Hein, ce genre de saccage.
On déterminer à la fin. Oui. Ce qui changerait là, justement, c'est si on prend quelqu'un qui est dans un rassemblement.
Ouais.
Où les vitrines ont
ça
été
changé quelque chose, ouais.
On pourrait le sanctionner.
Il faut que ça passe tous les échelons de l'acceptation d'une loi dans ce pays. Donc je pense que c'est pas pour demain.
Ça va dans le bon sens.
C'est très bien.
Non, mais là, pour bien de Sébastien Lecornu à Juliette Briand
pour le moment. Ce sont des mots.
Bon, en tout cas, il va y avoir un texte. Hein, mais oui. Jérôme connaît encore mieux que nous la machine parlementaire. Ça avance là. S'il promet un texte,
ça avance pas du tout.
Ok. Bon, c'est moi qui me fais avoir.
Non, mais les gars. Le discours d'investisseur, enfin le discours de politique générale de Gabriel Attal, tu casses, tu répares. C'était Carglass, hein.
Oui, oui.
Tu remplaces. C'était dans son discours de politique générale. Moi, je pensais que benoîtement. Il y a déjà été prise.
Alors il y a déjà des choses dans la loi. C'est ce que rappelait ce matin Gabriel Attal sur RMC. Mais visiblement,
il
n'y
a pas toujours besoin de ça. Pas... Moi, je connais plein de municipalités. Quand il y a un jeune qui est pris, qui vient de casser un abribus. Il s'embête pas par le tribunal. Hein. Mmh. T'envoies un titre de recette. C'est la famille qui le reçoit. C'est pas une décision judiciaire. Hein. Une fois que t'as balancé le titre de recette, tu payes pas. T'as une augmentation. Puis t'as une augmentation. Puis au bout d'un moment, t'as une saisie sur salaire. Mmh. Quand il y a les campagnes électorales, que les affiches, les partis politiques se mettent à saloper tous les murs en collant n'importe où, il y a des mairies, ils envoient le titre de recette à la permanence du candidat. Mmh. Et je peux te dire que le mec. Il rappelle vite fait ses couleurs d'affiches pour qu'ils aillent bien coller sur les panneaux. Parce que ça coûte très cher. Il y a plein de municipalités qui peuvent et qui le font déjà. Sur le principe, oui, mille fois oui.
Oui, pour l'instant, on va attendre de voir.
Et si c'est des mineurs, les parents ont les moyens de pas élever leurs enfants, donc ils ont les moyens de payer les dégâts.
On termine ce zapping avec un extrait d'Apolline Matin. Faut-il faire passer tous les examens le matin, face aux fortes chaleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, souhaite que plus aucun examen ne se déroule l'après-midi. C'est déjà le cas pour une bonne partie des épreuves, mais selon Sophie Vénétité du syndicat enseignants SNES-FSU, cette mesure, cette annonce du ministre n'est qu'une rustine.
Ah oui.
Enfin, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage, on sait qu'on bricole pour trouver des remplaçants et on sait aussi qu'on bricole face à la canicule. C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Les choses n'avancent pas, en tout cas pas assez vite, notamment parce qu'il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à faire de la rénovation du bâti scolaire. Il n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques. Et c'est absolument scandaleux.
Bon, ça a le mérite d'être une première avancée, même si c'est un peu cosmétique. Jérôme Lavrieux est atterré par l'annonce de Geffray.
Qu'une représentante syndicaliste de syndicat dit autant d'énormités.
Mais non.
Mais si, le bâti scolaire, ça ne dépend pas de l'éducation nationale. Je suis désolé de le dire, hein, parce qu'il ne faut jamais dire ce genre de choses.
Les mairies.
C'est les mairies pour les écoles primaires élémentaires. c'est les départements pour les collèges, c'est les régions pour les lycées. Plutôt que de voter pour des gens autrement que par celui qui va te promettre le festival de je sais pas quoi et puis de raser gratis, bah regardez pourquoi vous avez voté.
Oui, mais un ministre...
Plutôt que de créer la énième salle de spectacle qui sert à rien, peut-être que vous auriez pu voter pour un type qui vous a dit moi je rénove toutes les mairies. La preuve c'est qu'il y a des écoles, toutes les écoles. La preuve c'est qu'il y a des écoles où il y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont fait leur boulot.
Oui, mais un ministre toujours... de l'éducation, il donne une impulsion quand même si tu veux.
Non. Le ministre de l'éducation, voilà. Il fait là ce qui est son rôle, c'est de dire voilà les horaires des examens. Les régions doivent s'occuper des lycées et pas des pâquerettes de je sais pas quoi. Et les départements.
Mais il pourrait dire on fait un grand plan national de climatisation.
Mais il n'y a pas besoin d'un grand plan national. Écoles. C'est aux collectivités de prendre leurs responsabilités.
Bah, il faut un grand plan national pour les collectivités.
Elles se sont roulées par terre pour avoir de la décentralisation et s'en occuper.
C'est exactement ça.
C'est à elles de le faire.
Ça va quoi en fait?
C'est à elle de le faire. Sinon, n'ayons pas de région. Pourquoi il y a des régions qui y arrivent? Parce qu'il y a des régions, ils n'ont rien à foutre.
Oui, mais il y a beaucoup de communes aussi. Je vais voir le maire. Je lui dis pourquoi il n'y a pas la clim. Il va dire ah, c'est pas de ma faute, c'est l'État, c'est la région,
ben, ça
c'est
n'est
le
pas
département.
Vrai. Et ben ça n'est pas vrai. C'est une question de choix budgétaire. Plutôt que de tartiner des séparateurs de voies en granit pour protéger les pistes cyclables.
Et ouais, on va en parler des pistes cyclables.
Tu peux acheter un climatiseur à la place.
On peut faire les deux. Mais moi, je trouve ça honteux. Je paye tellement d'impôts. Et quoi, je peux pas avoir la clim dans un bâtiment public? Mais allô?
Mais vote pour des gens qui font des choix.
Je suis imposée à 60% et on me dit maintenant, l'école va fermer une moitié de journée parce qu'il fait trop chaud. Mais mets la clim, frère. Mais mettez la clim. Mettez des ventilos. Comment c'est pas possible que pour les épreuves du bac, on achète des putains de ventilos? Ça coûte 15 euros, hein, un ventilo.
Je vous rappelle que les anticlims, c'est les écolos, hein, parce que ça consomme de
l'énergie.
C'est
bien de le rappeler quand même. Non, je suis désolée. Si. Les écolos aujourd'hui, ils sont très lucides sur la clim et sur la nécessité. Mais tu sais pourquoi?
Aujourd'hui.
Mais tu sais ce qu'ils disent les écolos? Ils te disent un truc très vrai. Ça sert à rien d'acheter une clim si ton bâtiment il est pas isolé parce que ça consomme comme pas possible.
Mais c'est pour embrasser de l'air chaud.
Comment c'est possible? Excusez-moi. Que les écoles aujourd'hui ne soient pas des bâtiments
pas
isolés.
Toutes les écoles.
On est en train de nous dire, oui, pas toutes les écoles, mais je suis d'accord que t'as des régions plus intelligentes que d'autres, mais t'as une impulsion qui vient de l'État aussi. Je suis désolée, mais bien sûr que si, c'est un entonnoir. Au bout d'un moment, si t'as pas un État qui est fort et qui dit les gars, voilà, bougez-vous le derche, et ben personne le fera. Désolée pour les gros mots, ça m'énerve trop.
Si le roi ne dit rien, on ne fait rien.
C'est notre système, il marche comme ça. On est dans un système.
On parlait de la responsabilité des maires, ça tombe bien. Dans un instant, on va parler de ces maires qui commencent à supprimer des pistes cyclables dans les villes, des maires qui ont été élus là, au mois de mars dernier. Ça faisait partie de leur promesse. Si je suis élu, on enlève les pistes cyclables, retour de la voiture. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est du bon sens ou c'est scandaleux de supprimer les pistes cyclables? Vous allez venir témoigner tout de suite au 32-16 sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Charles Magnin.
13h30 sur RMC, c'est la suite d'Estelle Midi. On est aussi à la télé sur le canal 23 de la TNT sur RMC Story avec la très belle équipe de ce lundi. Martin Bourdin à mes côtés, Élise Goldfarb, Jérôme Lavrieux, Juliette Briens. Et on passe tout de suite, les amis, aux suppressions du jour. Ce sont les suppressions de pistes cyclables dans plusieurs villes. Des maires fraîchement élus qui décident de redonner de la place à la voiture en ville. Pour cela, ils remettent des rues en double sens, ils suppriment des voies cyclables, des mesures qu'ils avaient annoncé, promise durant la dernière campagne municipale et qu'ils mettent aujourd'hui en œuvre, quitte à faire hurler les adeptes de la bicyclette, Martin.
Qui se retrouvent à devoir de nouveau partager la route avec des automobilistes sur des tronçons qui leur étaient jusque-là donc réservés. La Fédération des usagers de la bicyclette tente quand même de relativiser. On parle de quelques villes qui font machine arrière, mais des centaines de collectivités continuent d'avancer discrètement. On t'en perd la présidente de la Fédération dans les colonnes du Point, mais à Lyon, à Aurillac, à Avignon, encore au Chênerot-Concours près de Paris, des pistes réservées aux cyclistes sont supprimés depuis quelques semaines. On est vélo-friendly, mais pas vélo-dogmatique. Voilà l'état d'esprit de ces maires, résumé par celui du Chênerot-Concours, où ils ont compté le nombre de vélos sur des axes réservés, 1,3% de la circulation globale. Inadmissible donc pour la nouvelle municipalité de maintenir ces pistes cyclables, car partout, c'est le même argument, rendre le trafic plus fluide. À Avignon, par exemple, le nouveau maire explique que certaines pistes avaient détourné certaines voitures vers des axes qui étaient déjà saturés, donc évidemment ça rend compliqué la circulation. Et même à Strasbourg, pourtant souvent considérée comme la ville la plus agréable pour les cyclistes en France, on envisage de supprimer certaines pistes qui seraient jugées délirantes ou mal conçues.
Qui pédale autour de cette table?
Je pédale.
Ah, Élise Goldfarb, en tant que cycliste, est-ce que le fait que plusieurs villes comme ça se mettent à supprimer les pistes cyclables, à redonner plus de place à la voiture, est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est scandaleux ?
C'est scandaleux. Mais moi, ça me rend chèvre. Déjà, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a coûté une blinde et il y a eu plein de travaux pour construire ces pistes cyclables. On nous les a bien brisées.
Et pour les supprimer.
Excusez-moi. Parce qu'on s'est tous plaints quand il y a eu les travaux pour les pistes cyclables à Paris. Et quoi, maintenant, on va nous dire, ah bah, en fait, tout cet argent, et tout ce temps de travaux, c'était pour rien. Déjà, de une, ça m'énerve. Ensuite, de deux, c'est trop bien une piste cyclable quand tu fais du vélo, en vrai. Ça a divisé de 60% les accidents de la route pour les cyclistes. Ce qui est gigantesque. Ça a réduit de 20% les accidents de la route tout court. D'accord ?
Sauf pour les piétons.
Oui, bon, les piétons, chacun sa merde.
Non, ouais.
Non. Mais c'est une blague. J'ai envie de vous faire des blagues aujourd'hui. Non, les piétons, c'est très relou, bien sûr, mais c'est pas le sujet, en fait.
Bah, si, un peu.
Les pistes cyclables, je ne comprends même pas l'intérêt de vouloir les enlever, en fait. Ça permet aux gens d'arrêter de conduire. On sait que la voiture, ça consomme beaucoup plus de CO2 que le vélo qui en consomme zéro, tout simplement. Il y a plein de trucs qu'on peut faire en vélo aujourd'hui. Je suis désolée. T'habites dans une grande ville? Ok pour les gens qui habitent dans des toutes petites villes et qui doivent aller travailler à 30 km de chez eux, je comprends qu'il y ait une nécessité de la voiture. Aujourd'hui, quand tu habites dans une grande ville, tu n'as aucune excuse, à moins que tu sois en situation de mobilité réduite, auquel cas, il n'y a pas de souci. Et justement, les pistes cyclables sont faites pour ça, pour vous laisser de la place sur les routes, pour que les gens qui n'ont pas besoin de conduire ne conduisent pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Mais c'est tout le débat. C'est quelle place on accorde au vélo ou à la voiture
c'est
en ville, dans quel
vélo,
sens on va.
On s'éclate.
Depuis 15, 20, 30 ans, beaucoup de villes réduisent la place de la voiture pour laisser de la place au vélo. Et là, on commence à assister, dans certaines communes pour l'instant, Julien Brien, ça, on fait marche arrière. On retire les aménagements de la piste cyclable pour redonner de la place à la voiture.
Et
c'est ça l'objectif.
Certaines communes qui ne sont pas Paris ni Lyon, là, on n'est pas du tout en train de parler de ça.
Il y a la métropole lyonnaise.
Hein. Ah, ok, mais.
Et à Paris, on réfléchit aussi à revenir sur certaines pistes cyclables, notamment du côté de la route.
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour certains maires, c'est une question de vie ou de mort du centre-ville, en fait. Il s'agit ici d'élever, on va dire, sur l'échelle du respect, les automobilistes au statut d'insecte, au statut d'esclave, en fait. Donc, ils vont juste bouger d'un cran sur l'échelle du respect, parce que, en fait, là, c'était un mépris, qui, tue les centres-villes. Les cyclistes, c'est très bien. Les gens qui peuvent prendre le vélo pour aller au travail, etc., en centre-ville, mais personne n'est contre ça, c'est très bien. Mais si tu veux garder un centre-ville qui est déjà broyé par la concurrence du commerce, internet, etc., et faire en sorte que les gens continuent à se déplacer en centre-ville pour faire leurs courses et leur shopping, t'es obligé de redonner un peu de respect aux automobilistes, leur redonner un peu de marge, un peu de place pour se garer, etc.
Sinon,
on va continuer à pleurer sur la mort de nos centres-villes. On va continuer à dire, mais avant c'était dynamique, avant ça bougeait, avant il y avait du monde, avant il y avait du commerce. Aujourd'hui, tous les commerces ferment un par un. Mais pourquoi? Mais parce que plus personne ne vient faire son shopping en ville.
Non, Julia,
parce que si tu veux être en bagnole, il faut aller dans la périphérie, là où tu pourras te garer.
La mort des centres-villes.
Pour certains maires, c'est une question de vie ou de mort de leur centre-ville.
Juste, Élise. Désolée, parce que pour moi, ça c'est une fake news. La mort des centres-villes n'est absolument pas liée à la présence de voitures ou de vélos. Pourquoi? Parce que quand une rue est piétonne, il y a tout autant de gens. La mort des centres-villes, c'est le e-commerce. C'est le e-commerce et Temu et Shein. C'est tout simplement ça. Il y a pas d'autre raison.
Il faut pouvoir y accéder aussi. Si on habite à le maire d'Aurillac qui dit, moi, ma commune, en fait, c'est essentiellement des gens qui arrivent de petits villages autour à 10, 20, 30 kilomètres. Ils ont besoin de venir en voiture, de pouvoir accéder au centre-ville et de se garer. Une heure dans les bouchons parce que on a laissé trop de place au vélo.
Je viens d'un développons les transports en commun. D'une ville moyenne de province qui s'appelle Chambéry et je sais que mes potes là-bas qui habitent aux alentours, leur nouveau truc c'est je ne mets plus un pied au centre-ville. Voilà. Donc moi avant ils venaient dans les boîtes, dans les restos, ils venaient dans les commerces. À partir de maintenant, ils ne mettent plus à part obligé un pied au centre-ville parce qu'ils peuvent pas venir et se garer. Donc ils viennent plus. C'est pas un truc de mon imagination. Il y a pas que le e-commerce.
Au-delà du parking, c'est aussi une question de circulation, de fluidité. Circuler plus rapidement. Est-ce qu'on redonne plus de place à la voiture? Il y a un côté sens de l'histoire. C'est-à-dire que pendant 30 ans, Jérôme Lavrieux, les maires ont dit piste cyclable, piste cyclable, tout pour le vélo. Et aujourd'hui, retour en arrière, on redonne de la place à la voiture.
Oui, mais je crois qu'on évolue dans le bon sens parce que les communes dont on parle, alors Lyon, c'est pas la ville, c'est la métropole, les compétences. c'est des gens qui ne sont plus dogmatiques. Personne de ces maires n'a dit « Élisez-moi, il n'y aura plus de pistes cyclables ». Ils ont dit « Élisez-moi, on va arrêter de déconner ». Et il y a des endroits où ça déconne. La preuve, c'est Emmanuel Grégoire, c'est pas un dangereux fasciste. Et c'est le successeur d'Anne Hidalgo. Et il essaye de faire du Anne Hidalgo sans déconner. Et il y a des endroits où il faut corriger, où c'est pas nécessaire. C'est ce qu'ils vont faire. Et en plus, si on est respectueux du suffrage universel, s'ils l'ont dit avant, combien de fois il y a des maires qui font l'inverse de ce qu'ils ont été élus, eux le disent, je vais corriger, je vais pas supprimer, je vais corriger.
Oui, mais alors souvent l'élection municipale, et c'est pas joué sur la piste cyclable de la rue machin. On
non,
est,
mais
on est
personne,
rarement,
aucun des maires qu'on a cité n'a supprimé les pistes cyclables. Ils disent, il y a des endroits où ça ne se justifie pas, voire ça ne se justifie plus. Et le truc de dire, enlevons la voiture, on va enlever la pollution. Non. Enlevons les moteurs thermiques et on va enlever la pollution. Une voiture électrique, elle pollue pas. Elle permet pourtant de se déplacer. Et il y en a de plus en plus. Je rappelle que le mois dernier, pour la première fois, en voiture neuve, les immatriculations de voitures électriques étaient supérieures aux immatriculations de voitures thermiques. Et qu'en 2035, on aura quasiment plus la possibilité d'acheter une voiture
thermique.
Mais
c'est thermique. Normal parce que tu peux pratiquement pas acheter d'électrique, d'occasion parce qu'elle permet.
Mais l'argument de la pollution, Jérôme a raison. Les voitures qui roulent désormais sont de moins en moins polluantes.
Donc c'est pas l'argument. Ouais. L'argument qu'il doit y avoir, c'est faciliter les déplacements et la fluidité, et donc évitons les déconnades.
Alors, pour ou contre la suppression de ces pistes cyclables, là déjà dans certaines villes, on vous pose la question aussi sur le WhatsApp de l'émission, Martin.
Et Nico est pour au 0612 424 424. Bien sûr que les maires ont raison de supprimer les pistes cyclables, et pourtant je suis cycliste. Mais d'une part, les pistes cyclables ont été créées par des clowns qui n'ont jamais fait de vélo. Ensuite, cette marche à tout va pour les pistes cyclables ont développé les bouchons et donc la pollution. Et enfin, il y a souvent personne sur les pistes cyclables, nous écrit Nico.
Bon, c'est moins en moins vrai.
Ça dépend lesquels. On va accueillir un cycliste au 32-16. C'est Dario qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Dario.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Dario, vous êtes cycliste?
Exactement, ouais. Je suis cycliste et donc j'emprunte régulièrement les voies de circulation. Certaines fois sur les pistes cyclables et d'autres fois pas parce qu'elles sont plus dangereuses qu'autre chose. Alors, moi, je ne suis pas pour supprimer des pistes cyclables. Par contre, c'est quand on les construit, la plupart du temps, ceux qui les construisent, c'est d'un point de vue électoral. Pour dire, tiens, ben là, voilà une piste cyclable. Sauf que ces pistes cyclables, bien souvent, sont faites en dépit du bon sens. Je m'explique. Parfois, il y a des pistes cyclables qui sont réalisées sur des trottoirs. Donc, uniquement avec une bande de peinture.
Ouais, ça, c'est dangereux.
Et ça, c'est très, très dangereux pour tout le monde, pour les cyclistes, pour les piétons, pour les voitures qui sortent de leur résidence, etc. Voilà, donc ça, c'est un fait quand on circule en vélo, on s'en aperçoit régulièrement.
Oui, donc vous êtes cycliste, mais pas fan de toutes les pistes cyclables. Vous dites, ça vous choque pas que dans certaines villes, on dise, attendez, là, on en a fait trop, on les a faites n'importe comment, on les supprime, quitte à en refaire des un peu moins, mais plus intelligentes, si je comprends bien.
Exactement, parce que souvent, c'est fait en dépit du bon sens. Et d'autre part, sur les pistes cyclables, bien souvent, elles ne sont pas entretenues.
Oui, pourquoi ? Ça c'est vrai aussi.
Ouais, parce que comme c'est sur le côté, déjà toutes les cochonneries de la route se vont sur la droite, et là on récupère tout et n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison que parfois je ne prends pas les pistes cyclables, parce que par exemple sur Roquefort-les-Pins, il y a une piste cyclable qui va de Roquefort qui monte jusqu'au Rouvray, et bien là, en descente, on a des branches, on a des verres cassés, on a des bouteilles.
Oui, c'est moins entretenu que la chaussée, ça c'est vrai, parce que c'est sur le côté. Et parfois, je comprends bien, merci Dario, que vous êtes parfois plus en sécurité sur la route avec les voitures que sur la piste cyclable pourtant prévue pour vous. J'aimerais qu'on accueille aussi Osvaldo, qui lui est dans l'Essonne. Bonjour Osvaldo.
Bonjour.
Chef d'entreprise, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes pas chef d'entreprise, vous êtes plus en voiture qu'en vélo, j'imagine, sur la route, Osvaldo.
Oui, absolument. En fait... moi j'habite un peu dans le sud de l'Essonne, et il y a une commune qui s'appelle Balancourt-sur-Essonne. Ils ont fait une piste cyclable toute neuve, magnifique, avec un terre-plein qui la sépare de la route. Et vous voyez les cyclistes, ils sont sur la route, ils sont pas sur la piste cyclable.
Voilà. Pourquoi? Disait Dario, parce que je sais pas, ils se sentent plus en sécurité, je sais pas, elle est moins entretenue. Pourquoi, si les cyclistes ont une magnifique piste cyclable, ils préfèrent venir sur la route?
Ben, j'en sais rien. J'ai pas de réponse à vous apporter. Mais la piste, elle est toute neuve. Hein. Elle a 2 ans, donc elle est même pas du tout sale. Il y a un terre-plein hein, qui la sépare, donc il y a pas les saletés de la route parce que effectivement, on a une autre piste cyclable à Saint-Vrain où elle est sale et mal entretenue. Ben, je peux comprendre que les cyclistes n'aient pas envie de se prendre toutes les pierres et tous les.
Mais du coup, Osvaldo, là, quand je vous entends là, oui. quand les maires commencent à supprimer certaines pistes cyclables en disant, bah, elle a été mal conçue, c'est pas pratique, ça crée des bouchons sur la route, ça vous choque pas qu'on supprime des pistes cyclables?
Non, pas du tout. Au contraire, moi, je la route, on la partage avec les vélos. Hein. Ça se passe très bien. Je pense pas qu'il y ait.
C'est parce qu'on l'entend toujours dans la bouche des automobilistes cette cohabitation apaisée sur la route entre cyclistes et automobilistes, Osvaldo. Mais je veux bien vous croire. Je vous remercie aussi, Osvaldo, d'être venu témoigner, tout comme Dario. J'aimerais qu'on aille aussi faire un tour sur le WhatsApp de l'émission, lire vos messages et puis le résultat de notre consultation, Martin.
Sofiane qui nous écrit 06 12 424 424. Il est automobiliste mais aussi cycliste en ville. Supprimer les pistes cyclables obligeraient les cyclistes à se mêler à la circulation des voitures. Déjà qu'aujourd'hui certains automobilistes doublent sans respecter les distances de sécurité, ce serait une véritable mise en danger des cyclistes. Le problème, c'est pas les pistes cyclables, c'est le partage de la route et la qualité des aménagements. On vous écrit Sofiane sur WhatsApp.
Et puis on vous a posé la question sur nos réseaux, supprimer des pistes cyclables en ville, est-ce que vous êtes pour ou contre?
Eh ben vous trouvez que c'est plutôt du bon sens, pour 59% vous êtes pour.
Ah, vous êtes pour à la suppression. Ah, je vois que ça fait râler notre cycliste.
Que des automobilistes.
La Richard Virin, que d'Estelle Midi. Élise Goldfarb. À 13h44 sur RMC, c'est l'heure de jouer, Martin.
Oui, exactement, vous avez entendu l'alerte, c'est le moment d'essayer de gagner votre prime de match. Vous le savez, sur RMC, on vous offre votre prime de match, prime de Coupe du Monde, 500 euros par but marqué à chaque fois. Il y a eu des matchs cette nuit, il y a eu plein de buts. La prime de match actuellement, c'est 49 000 euros. Vous pouvez gagner 49 000 euros sur RMC. Ce montant, vous le retenez parce que à tout moment, on vous appelle. Et quand on vous appelle, si vous donnez le montant exact de la prime, eh bien, vous la remportez, cette prime de 49 000 euros. Donc vous envoyez dès maintenant, là, pour vous inscrire, but par SMS au 7-32-16. But par SMS au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
Voilà, vous vous inscrivez, vous restez bien attentifs. Et tout de suite sur RMC, c'est le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Charles Magnin.
13h50 sur RMC à la radio, RMC Story à la télé. Et tout de suite, c'est votre rendez-vous. C'est le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
RMC, Estelle Midi.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Salut. Tout de suite, on met du Shakira. Allez. Pour se mettre dans l'ambiance, puisque vous avez vu la cérémonie d'ouverture, Charles.
Bien sûr.
C'était fantastique. Et il y a eu des rumeurs comme quoi ce n'était pas Shakira, mais un sosie incroyable. Et il y a aussi des rumeurs qui disent que ce n'est pas la vraie Estelle Denis qui anime l'émission aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est un sosie. Non mais elle est juste un peu enrouée. Ça va, Estelle?
Tout à fait.
Eh ben voyez, ben voilà, ça c'est ma Estelle. Arrêtez le complotisme. Ben oui. Estelle est avec nous. Voilà. Chignon. Tout va bien.
On coupe court aux rumeurs. Allez, on écoute le premier message.
Oui, bonjour RMC, c'est Richard de Strasbourg. Voilà, je suis chez moi là, et je pense qu'il y a des inconnus qui se sont introduits à mon domicile, et ils sont pas discrets, ils sont 3. Il y a une femme et 2 personnes de petite taille qui font beaucoup de bruit. Je fais quoi? J'appelle la police parce que j'ai peur, Ah non, excusez-moi, je suis con. C'est ma femme et mes 2 enfants. Oh, ah non, à chaque Coupe du Monde, ça me le fait là. J'avais encore oublié qu'ils habitaient avec moi. Désolé pour le dérangement.
Eh oui, c'est ce qu'on appelle une famille, Richard, qui va enchaîner sur le Tour de France derrière. Ah oui. À mon avis, ça pue le divorce à plein nez, tout ça.
Ouais, ça en prend le chemin. Allez, message suivant.
Oui, bonjour, Maryse de Sainte-Foy-la-Grande. Mon fils Romain est en 3e, il prépare le brevet, et je viens de voir le nombre d'heures d'absence de ses professeurs. Alors moi qui ai tendance à dire qu'il a un père absent, eh bien en fait c'est rien à côté de ses profs. Hein. Non mais c'est quoi ça?
Qu'est-ce que tu dis, chérie?
Non, je dis que t'es un super papa avec Romain.
C'est qui, Romain?
Ah, eh ben non, bah, j'ai rien dit finalement. Allez, vive les profs.
Je pense que c'est le même papa que Richard. À mon avis, ils regardent les matchs ensemble.
Oui, c'est ça, des supporters. Allez, message suivant.
Ouais, bonjour, c'est Jérémy. Voilà, je sors du bac de philo. J'ai pris le sujet « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?» Alors j'ai répondu oui, et paf, je me suis barré. Oh, je pense que je vais avoir 20 sur 20, parce que vous auriez vu la gueule des autres. Ah bah, ils n'étaient pas heureux, hein.
Ah, superbe ce sujet de philo. Je suis un peu déçu, ils auraient pu faire des sujets Coupe du Monde, vous voyez, genre la réussite des Bleus passe-t-elle forcément par la chatte à Dédé? Le repli défensif de Mbappé passe-t-il par l'acceptation de soi-même? Ou encore, la bière, c'est bien, non?
Non, c'est avec modération.
Modération. Ou sans alcool, ça passe aussi.
Ça passe aussi, allez, message suivant.
Ouais, salut, c'est Jérémy Jonzac. Alors, vous avez vu, le président équatorien a supprimé la TVA sur l'alcool pendant toute la Coupe du Monde. Eh ben ça, monsieur, c'est très classe, c'est une très très grande classe. Je dis bravo, monsieur, et... Mesdames, messieurs, nous allons commencer notre descente vers Quito. Merci d'attacher vos ceintures, redresser vos tablettes. Tapez NC aux portes de mer. Allez, vamos à l'Équatoria.
Avec modération et toujours. Mais c'est une vraie info, hein. Vous vous rendez compte, moins 20% sur toutes les boissons alcoolisées pendant toute la Coupe du Monde. Ça va pas les aider tout
un
ça.
Un peu démago, ouais.
Et je pense qu'on a perdu Rémi Jonzac.
Ouais. Voilà. Bon voyage, Rémi. Bon voyage. Allez, message suivant.
Oui, bonjour, Jojo Dramatuel. Bon, je suis un grand fan de votre émission, mais là, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que je vais regarder l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Voilà, oh non, petite infidélité, mais c'est quand même le président, alors... attendez. Oh non. Oh, vous faites un tu préfères Ratatouille ou Piprade ? Oh, bah non, bah ça change tout. Alors là, ça c'est de la grande téloche. Mais eh oui. Ben, au chat, Macron, c'est vous que je vais regarder.
Ah, mais oui.
Bravo.
Le tu préfères, c'est tellement plus utile que l'interview d'un président de la République. Alors, c'est quoi déjà celui d'aujourd'hui ?
C'est mariage. Ah. Aujourd'hui, est-ce
en
que vous préférez.
Grand ou petit comité ?
Exactement. Wow, petit mariage ou grand mariage ?
Vous cherchez tout ça, Charles.
On s'est dit que c'était la saison des mariages. C'est on a tous des mariages en ce moment, etc.
Ouais,
et chacun ses choix. N'est-ce pas, Jérôme ?
Oui.
Voilà, ça promet.
Je suis en train de faire le choix.
Ah bah, on tranchera à 14h20, tu préfères.
Ça promet. Allez, message suivant.
Ouais, salut RMC, c'est Nicolas, je suis le papa de Sohan. Voilà, je suis au spectacle de fin d'année de mon fils. Ça fait 2h30, là, il est toujours pas passé. Je me suis tapé toute l'école, je n'en peux plus. Je crois que je vais faire une connerie. Voilà, allez, j'y vais, je tiens plus. Ah là là, il y a un incendie! Vite! Vite, il faut évacuer! Ah là 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 là, quel drame, vraiment!
Ah ouais, quel drame, l'incendie qui se déclenche en plein spectacle de fin d'année. Moi, je vais juste finir par un petit message personnel, si je peux me permettre, Charles.
Bien sûr.
Voilà, samedi, c'était la kermesse de l'école de mon fils. Ouais. Et un papa devait me relayer sur le stand Chamboultou. Il n'est jamais venu. Du coup, je suis resté 1h30 en plein cagnard. Donc, s'il m'écoute, eh ben, bien joué.
Bah oui. Il était devant la Coupe du Monde.
Voilà. Allez, on est vers tous les messages et demain, on recommence. Salut.
Et on va voir Pierre-Antoine aussi en spectacle à Paris. Il reste deux dates, deux mercredis. À 19h au théâtre Métropole. Donc dépêchez-vous pour attraper les dernières places avant l'été pour aller voir Pierre-Antoine en spectacle et à réécouter aussi le répondeur quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. Et puis Pierre-Antoine est spécialiste des messages vocaux. Vous l'entendez sur le répondeur. Oui. Mais à 14h, on va débattre des notes vocales. Ces vocaux que vous recevez sur vos téléphones, ils sont de plus en plus longs, de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il faut en finir ? Est-ce que c'est pratique ou insupportable les vocaux ? Jérôme Lavrieux ne les écoute jamais. Élise Goldfarb en envoie 50 par matinée.
Est-ce un manque de respect de les écouter en x2?
C'est la base même.
C'est la base.
C'est une question de survie, je crois.
Eh ben, on va en débattre avec vous. Voilà. Vous nous appelez, surtout pas de message vocal. Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre juste après 14h. C'est la suite d'Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.